Chapitre 25. Mais que m'importe à moi, me dit un jour Madame de Haut-Castel, que la musique de Cherubini ou de Cimarosa diffère de celle de leurs prédécesseurs? Que m'importe que l'ancienne musique me fasse rire, pourvu que la nouvelle m'attendrisse délicieusement? Est-il donc nécessaire à mon bonheur que mes plaisirs ressemblent à ceux de ma trisaïeule? Que me parlez-vous de peinture, d'un art qui n'est goûté que par une classe très peu nombreuse de personnes, tandis que la musique enchante tout ce qui respire? Je ne sais pas trop dans ce moment ce qu'on pourrait répondre à cette observation à laquelle je ne m'attendais pas en commençant ce chapitre. Si je l'avais prévu, peut-être je n'aurais pas entrepris cette dissertation. Et qu'on ne prenne point ceci pour un tour de musicien. Je ne le suis point sur mon honneur. Non, je ne suis pas musicien. J'en atteste le ciel et tous ceux qui m'ont entendu jouer du violon. Mais en supposant le mérite de l'art égal de part et d'autre, il ne faudrait pas se presser de conclure du mérite de l'art au mérite de l'artiste. On voit des enfants toucher du clavecin en grand maître. On n'a jamais vu un bon peintre de 12 ans. La peinture, outre le goût et le sentiment, exige une tête pensante dont les musiciens peuvent se passer. On voit tous les jours des hommes sans tête et sans cœur tirer d'un violon, d'une harpe, des sons ravissants. On peut élever la bête humaine à toucher du clavecin, et lorsqu'elle est élevée par un bon maître, l'âme peut voyager tout à son aise, tandis que les doigts vont machinalement tirer des sons dont elle ne se mêle nullement. On ne saurait au contraire peindre la chose du monde la plus simple sans que l'âme y emploie toutes ses facultés. Si cependant quelqu'un s'avisait de distinguer entre la musique de composition et celle d'exécution, j'avoue qu'il m'embarrasserait un peu. Hélas, si tous les faiseurs de dissertations étaient de bonne foi, c'est ainsi qu'elles finiraient toutes. En commençant l'examen d'une question, on prend ordinairement le ton dogmatique parce qu'on est décidé en secret, comme je l'étais réellement pour la peinture, malgré mon hypocrite impartialité. Mais la discussion réveille l'objection et tout finit par le doute. Chapitre 26. Maintenant que je suis plus tranquille, je vais tâcher de parler sans émotion des deux portraits qui suivent le tableau de la bergère des Alpes. Raphaël, ton portrait ne pouvait être peint que par toi-même. Quel autre eût osé l'entreprendre? Ta figure ouverte, sensible, spirituelle, annonce ton caractère et ton génie. Pour complaire à ton ombre, j'ai placé auprès de toi le portrait de ta maîtresse, à qui tous les hommes de tous les siècles demanderont éternellement compte des ouvrages sublimes dont ta mort prématurée a privé les arts. Lorsque j'examine le portrait de Raphaël, je me sens pénétré d'un respect presque religieux pour ce grand homme qui, à la fleur de l'âge, avait surpassé toute l'Antiquité, dont les tableaux font l'admiration et le désespoir des artistes modernes. Mon âme, en l'admirant, éprouve un mouvement d'indignation contre cette Italienne qui préféra son amour à son amant et qui éteignit dans son sein ce flambeau céleste, ce génie divin. Malheureuse, ne savais-tu donc pas que Raphaël avait annoncé un tableau supérieur à celui de la Transfiguration? Ignorais-tu que tu serrais dans tes bras le favori de la nature, le père de l'enthousiasme, un génie sublime, un dieu? Tandis que mon âme fait ses observations, sa compagne, en fixant un œil attentif sur la figure ravissante de cette funeste beauté, se sent toute prête à lui pardonner la mort de Raphaël. En vain, mon âme lui reproche son extravagante faiblesse. Elle n'est point écoutée. Il s'établit entre ces deux dames, dans ces sortes d'occasions, un dialogue singulier qui finit trop souvent à l'avantage du mauvais principe et dont je réserve un échantillon pour un autre chapitre. Chapitre 27. Les estampes et les tableaux dont je viens de parler pâlissent et disparaissent au premier coup d'œil qu'on jette sur le tableau vivant. Mais les ouvrages immortels de Raphaël, de Corrège et de toute l'école d'Italie ne soutiendraient pas le parallèle. Aussi, je le garde toujours pour le dernier morceau, pour la pièce de réserve, lorsque je procure à quelques curieux le plaisir de voyager avec moi, et je puis assurer que, depuis que je fais voir ce tableau sublime aux connaisseurs et aux ignorants, aux gens du monde, aux artisans, aux femmes et aux enfants, aux animaux même, j'ai toujours vu les spectateurs quelconques donner, chacun à sa manière, des signes de plaisir et d'étonnement, tant la nature y est admirablement rendue. Et quel tableau pourrait-on vous présenter, messieurs? Quel spectacle pourrait-on mettre sous vos yeux, mesdames, plus sûr de votre suffrage que la fidèle représentation de vous-même? Le tableau dont je parle est un miroir, et personne jusqu'à présent ne s'est encore avisé de le critiquer. Il est, pour tous ceux qui le regardent, un tableau parfait, auquel il n'y a rien à redire. On conviendra sans doute qu'il doit être compté pour une des merveilles de la contrée où je me promène. Je passerai sous silence le plaisir qu'éprouve le physicien méditant sur les étranges phénomènes de la lumière qui représentent tous les objets de la nature sur cette surface polie. Le miroir présente aux voyageurs sédentaires 1000 réflexions intéressantes, 1000 observations qui le rendent un objet utile et précieux. Vous, que l'amour a tenu ou tient encore sous son empire, apprenez que c'est devant un miroir qu'il aiguise ses traits et médite ses cruautés. C'est là qu'il répète ses manœuvres, qu'il étudie ses mouvements, qu'il se prépare d'avance à la guerre qu'il veut déclarer. C'est là qu'il s'exerce au doux regard, aux petites mines, aux bouderies savantes, comme un acteur s'exerce en face de lui-même avant de se présenter en public. Toujours impartial et vrai, un miroir renvoie aux yeux du spectateur les roses de la jeunesse et les rides de l'âge, sans calomnier et sans flatter personne. Seul entre tous les conseillers des grands, il leur dit constamment la vérité. Cet avantage m'avait fait désirer l'invention d'un miroir moral, où tous les hommes pourraient se voir avec leurs vices et leurs vertus. Je songeais même à proposer un prix à quelque académie pour cette découverte, lorsque de mûres réflexions m'en ont prouvé l'inutilité. Hélas, il est si rare que la laideur se reconnaisse et casse le miroir. En vain les glaces se multiplient autour de nous et réfléchissent avec une exactitude géométrique la lumière et la vérité, au moment où les rayons vont pénétrer dans notre œil et nous peindre tels que nous sommes, l'amour-propre glisse son prisme trompeur entre nous et notre image, et nous présente une divinité. Et de tous les prismes qui ont existé, depuis le premier qui sortit des mains de l'immortel Newton, aucun n'a possédé une force de réfraction aussi puissante et ne produit de couleurs aussi agréables et aussi vives que le prisme de l'amour-propre. Or, puisque les miroirs communs annoncent en vain la vérité et que chacun est content de sa figure, puisqu'ils ne peuvent faire connaître aux hommes leurs imperfections physiques, à quoi servirait un miroir moral? Peu de monde y jettera les yeux, et personne ne s'y reconnaîtrait, excepté les philosophes. J'en doute même un peu. En prenant le miroir pour ce qu'il est, j'espère que personne ne me blâmera de l'avoir placé au-dessus de tous les tableaux de l'école d'Italie. Les dames, dont le goût ne saurait être faux, et dont la décision doit tout régler, jettent ordinairement leur premier coup d'œil sur ce tableau lorsqu'elles entrent dans un appartement. J'ai vu 1000 fois des dames, et même des damoiseaux, oublier au bal leurs amants ou leurs maîtresses, la danse et tous les plaisirs de la fête, pour contempler avec une complaisance marquée ce tableau enchanteur, et l'honorer même de temps à autre d'un coup d'œil, au milieu de la contredanse la plus animée. Qui pourrait donc lui disputer le rang que je lui accorde parmi les chefs-d'œuvre de l'art d'appel ? Chapitre 28. J'étais enfin arrivé tout près de mon bureau. Déjà même en allongeant le bras, j'aurais pu en toucher l'angle le plus voisin de moi lorsque je me vis au moment de voir détruire le fruit de tous mes travaux et de perdre la vie. Je devrais passer sous silence l'accident qui m'arriva pour ne pas décourager les voyageurs, mais il est si difficile de verser dans la chaise de poste dont je me sers qu'on sera forcé de convenir qu'il faut être malheureux au dernier point, aussi malheureux que je le suis, pour courir un semblable danger. Je me trouvais étendu par terre, complètement versé et renversé, et cela si vite, si inopinément, que j'aurais été tenté de révoquer en doute mon malheur, si un tintement dans la tête et une violente douleur à l'épaule gauche ne m'en avaient trop évidemment prouvé l'authenticité. Ce fut encore un mauvais tour de ma moitié. Effrayé par la voix d'un pauvre qui demande tout à coup l'aumône à ma porte, et par les aboiements de Rosine, elle fit tourner brusquement mon fauteuil avant que mon âme eût le temps de l'avertir qu'il manquait une bride derrière, et l'impulsion fut si violente que ma chaise de poste se trouva absolument hors de son centre de gravité et se renversa sur moi. Voici, je l'avoue, une des occasions où j'ai eu le plus de me plaindre de mon âme. Car au lieu d'être fâché de l'absence qu'elle venait de faire et de tancer sa compagne sur sa précipitation, elle s'oublia au point de partager le ressentiment le plus animal et de maltraiter de paroles ce pauvre innocent. « Fainéant, allez travailler !» lui dit-elle. Apostrophe exécrable inventée par l'avare et cruelle richesse. « Monsieur, dit-il alors, pour m'attendrir, je suis de Chambéry. Tant pis pour vous. Mais je suis Jacques, c'est moi que vous avez vu à la campagne, c'est moi qui menais les moutons au champ. Que venez-vous faire ici ?» Mon âme commençait à se repentir de la brutalité de mes premières paroles. Je crois même qu'elle s'en était repentie un instant avant de le laisser échapper. C'est ainsi que, lorsqu'on rencontre inopinément dans sa course un fossé ou un bourbier, on le voit, mais on n'a pas le temps de l'éviter. Rosine acheva de me ramener au bon sens et au repentir. Elle avait reconnu Jacques, qui avait souvent partagé son pain avec elle et lui témoignait par ses caresses son souvenir et sa reconnaissance. Pendant ce temps, Johannetti, ayant rassemblé les restes de mon dîner qui étaient destinés pour le sien, les donna sans hésiter à Jacques. Pauvre Johannetti. C'est ainsi que dans mon voyage, je vais, prenant des leçons de philosophie et d'humanité, de mon domestique et de mon chien. Chapitre 29. Avant d'aller plus loin, je veux détruire un doute qui pourrait s'être introduit dans l'esprit de mes lecteurs. Je ne voudrais pas pour tout au monde qu'on me soupçonna d'avoir entrepris ce voyage uniquement pour ne savoir que faire et forcé en quelque manière par les circonstances. J'assure ici et jure par tout ce qui m'est cher que j'avais le dessein de l'entreprendre longtemps avant l'événement qui m'a fait perdre ma liberté pendant 42 jours. Cette retraite forcée ne fut qu'une occasion de me mettre en route plus tôt. Je sais que la protestation gratuite que je fais ici paraîtra suspecte à certaines personnes, mais je sais aussi que les gens soupçonneux ne liront pas ce livre. Ils ont assez d'occupations chez eux et chez leurs amis. Ils ont bien d'autres affaires, et les bonnes gens me croiront. Je conviens cependant que j'aurais préféré m'occuper de ce voyage dans un autre temps, et que j'aurais choisi pour l'exécuter le carême plutôt que le carnaval. Toutefois, des réflexions philosophiques qui me sont venues du ciel m'ont beaucoup aidé à supporter la privation des plaisirs que Turin présente en foule dans ces moments de bruit et d'agitation. « Il est très sûr, me disais-je, que les murs de ma chambre ne sont pas aussi magnifiquement décorés que ceux d'une salle de bal. Le silence de ma cabine ne vaut pas l'agréable bruit de la musique et de la danse. Mais parmi les brillants personnages qu'on rencontre dans ces fêtes, il en est certainement de plus ennuyeux que moi. Et pourquoi m'attacherais-je à considérer ceux qui sont dans une situation plus agréable, tandis que le monde fourmille de gens plus malheureux que je ne le suis dans la mienne? Au lieu de me transporter par l'imagination dans ce superbe casino où tant de femmes sont éclipsées par la jeune génie, pour me trouver heureux, je n'ai qu'à m'arrêter un instant le long des rues qui y conduisent. Un tas d'infortunés couchés à demi nus sous les portiques de ces appartements somptueux semblent près d'expirer de froid et de misère. Quel spectacle ! Je voudrais que cette page de mon livre fut connue de tout l'univers. Je voudrais qu'on sût que, dans cette ville où tout respire l'opulence, une foule de malheureux dorment découverts, la tête appuyée sur une borne ou sur le seuil d'un palais. Ici, c'est un groupe d'enfants serrés les uns contre les autres pour ne pas mourir de froid. Là, c'est une femme tremblante et sans voix pour se plaindre. Les passants vont et viennent, sans être émus d'un spectacle auquel ils sont accoutumés. Le bruit des carrosses, la voix de l'intempérance, les sons ravissants de la musique se mêlent quelquefois aux cris de ces malheureux et forment une terrible dissonance. Chapitre 30. Celui qui s'oppresserait de juger une ville d'après le chapitre précédent se tromperait fort. J'ai parlé des pauvres qu'on trouve, de leurs cris pitoyables et de l'indifférence de certaines personnes à leur égard. Mais je n'ai rien dit de la foule d'hommes charitables qui dorment pendant que les autres s'amusent, qui se lèvent à la pointe du jour et vont secourir l'infortune sans témoin et sans ostentation. Non, je ne passerai point cela sous silence. Je veux l'écrire sur le revers de la page que tout l'univers doit lire. Après avoir ainsi partagé leur fortune avec leurs frères, après avoir versé le baume dans ces cœurs froissés par la douleur, ils vont dans les églises, tandis que le vice fatigué dort sous l'édredon, offrir à Dieu leurs prières et le remercier de ses bienfaits. La lumière de la lampe solitaire combat encore dans le temple celle du jour naissant, et déjà ils sont prosternés au pied des autels. Et l'Éternel, irrité de la dureté et de l'avarice des hommes, retient sa foudre prête à frapper. Chapitre 31. J'ai voulu dire quelque chose de ces malheureux dans mon voyage, parce que l'idée de leur misère est souvent venue me distraire en chemin. Quelquefois, frappé de la différence de leur situation et de la mienne, j'arrêtais tout à coup ma berline et ma chambre me paraissait prodigieusement embellie. Quel luxe inutile ! 6 chaises, 2 tables, 1 bureau, 1 miroir, quelle ostentation ! Mon lit, surtout, mon lit couleur de rose et blanc, et mes 2 matelas me semblaient défier la magnificence et la mollesse des monarques de l'Asie. Ces réflexions me rendaient indifférents les plaisirs qu'on m'avait défendus, et de réflexions en réflexions, mon accès de philosophie devenait tel que j'aurais entendu le son des violons et des clarinettes sans remuer de ma place. J'aurais entendu de mes 2 oreilles la voix mélodieuse de Marchesini, cette voix qui n'a si souvent mis hors de moi-même, oui, je l'aurais étendu sans m'ébranler, bien plus. J'aurais regardé sans la moindre émotion la plus belle femme de Turin, génie elle-même, parée de la tête aux pieds par les mains de Mademoiselle Rapousse. Cela n'est cependant pas bien sûr.